Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur un sujet extrêmement inquiétant, celle de la guerre et de l'escalade de la guerre. Alors, on nous a sorti toute une série d'arguments et je voulais donc y revenir, notamment que l'invasion de l'Ukraine, si elle se confirmait, en tout cas elle est déjà là, mais en tout cas si elle se terminait par un succès, pouvait s'étendre à d'autres pays d'Europe. On nous a cité la Pologne, les pays baltes, la Finlande, etc. Alors c'est de la manipulation de toute sa façon, car c'est oublier que le motif de la guerre en Ukraine, où une partie importante des Ukrainiens, grosso modo sur la partie est du pays, se considère comme russe, est l'origine du conflit. Et en plus, les russophiles et russophones qui sont à l'est se prétendent, en tout cas, plus ou moins persécutés, et récemment, on leur a interdit de parler, en tout cas dans les expressions publiques, leur langue, ce qui a mis un peu plus de feu aux poudres. En fait, Poutine n'a jamais revendiqué l'annexion de l'Ukraine. Il est intervenu dans ce conflit de la partie pro-russe du territoire, le Donbass et quelques autres, et pas une autre. Et ce conflit, je le rappelle, date de 2014, donc c'est pas très récent. Je ne lui donne absolument pas raison, c'est pas le sujet. J'essaye de circonscrire en quelque sorte, en tout cas, ce qu'il dit dans ses discours officiels et le fait qu'il n'a jamais prétendu aller plus loin en termes d'annexion. Voilà. Donc, à partir de là, aucune comparaison, qu'il n'y a pas de population qui se prétend russe en Finlande ou ailleurs, ou en Pologne, en tout cas en nombre. Et donc la comparaison avec d'autres pays d'Europe, de ce point de vue-là, est ridicule. Et aussi, faudrait-il qu'il y ait des intérêts pour la Russie, qui est désormais un pays de moyenne taille, si l'on peut dire, avec 144 millions d'habitants, ce n'est plus l'URSS avec le double, près du double d'habitants. Donc on voit bien que en termes de force, les forces ne sont pas là, si tant est qu'il y ait une raison en plus de le faire. Donc là, cette espèce de manipulation pour dire il faut pas que les Russes gagnent la guerre en Ukraine parce que sinon ce sera le tour d'autres pays, de ce point de vue-là, ne tient pas la route. On va nous faire peur avec ça. Et je vois pas bien comment la Pologne ou les pays baltes pourraient être concernés par une tentative d'annexion qui dépasserait finalement l'est de l'Ukraine. Sauf évidemment, et on va y revenir, sur l'extension d'un conflit qui prendra une toute autre tournure que l'on pourrait appeler un conflit mondial. Alors il faut revenir aussi sur la réalité politique de l'Ukraine. Le fait d'avoir élu à la présidence un comique, Volodymyr Zelensky, qui avait dans son panel finalement de sketchs, des sketchs qui n'étaient pas spécialement comparables avec ceux de Coluche d'ailleurs, montre un déficit colossal du débat politique. L'Ukraine est un pays ultra-libéral depuis déjà assez longtemps, avec des organisations fascisantes qui ont pignon sur rue et où le niveau de corruption est particulièrement important. C'est d'ailleurs pour ça que les agences de voyage ne se précipitaient pas sur des propositions dans le domaine, à part sur Kiev. Les premières victimes sont d'abord les Ukrainiens, il faut le redire, comme à chaque fois dans ces conditions. Et croire que la politique de l'Ukraine est décidée par les Ukrainiens serait d'une grande naïveté. Ça, c'est grosso modo pour faire un état des lieux, si l'on peut dire. Alors, pourquoi cette escalade qui nous a été annoncé par le président Macron, eh bien, certainement pour faire oublier les questions de politique intérieure. Visiblement, les Jeux Olympiques n'ont pas l'air de suffire à les faire oublier. Ils réclament du pain. Donnez-leur des Jeux, hein, ça date pas d'hier. C'est un vieux truc que de créer un événement pour faire oublier la politique sociale. Et cette politique sociale qui est désastreuse, avec la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation de la précarité et de la pauvreté dans notre pays, la réduction de la couverture sociale, hein, régulièrement on nous annonce des réductions en matière de couverture sociale, la poursuite des atteintes aux libertés, on en a quand même un bon paquet, l'absence de réponse aux besoins dans le domaine de la santé, en tout cas de réponse efficace, il n'y en a pas, hein, notamment dans les prises en charge, que ce soit l'hôpital, les urgences ou par rapport aux généralistes, et l'absence de réponse efficace est très insuffisante dans le domaine du dérèglement climatique. Je m'arrête là, mais déjà, il y a de quoi faire, si l'on peut dire. Et on vient d'apprendre, entre autres, qu'il y a un projet de réduire de façon drastique le nombre de représentants du personnel dans les entreprises. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais un vrai sujet qui passe complètement à la trappe à partir du moment où tout le monde est traumatisé, et ça se comprend, avec l'idée de la guerre. Donc il s'agit de faire diversion, quitte à jouer avec le feu pour faire oublier sa politique intérieure. C'est une ligne Macron, on peut dire c'est la ligne Macron, puisqu'on l'a déjà vécu avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. On l'a vécu avec le Covid, rappelez-vous son discours, « Nous sommes en guerre », il le répétait, hein. Ça c'était pour le Covid. Le jeu avec le Rassemblement National, hein, où tout en le dénonçant, on en fait régulièrement la publicité. Et plus récemment, les Jeux Olympiques, et maintenant l'Ukraine. Donc faire diversion, c'est ce que je voulais avant tout dénoncer. Et il faut parler maintenant des initiatives de paix. Est-ce qu'il y a des initiatives de paix ? Il y a quelques pays comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie qui ont fait des propositions. Pour la France, on ne peut pas dire, à part ces annonces d'escalade, que ce soit le cas. Rien n'a été fait, en tout cas, de très concret depuis 2 ans. Hein. Le discours de Macron, d'ailleurs, ne va pas dans ce sens-là, puisqu'il ne va pas dans le sens d'aller vers la paix, il va dans le sens d'aller vers la victoire. Donc ça pose un problème, parce que la victoire, elle est hypothétique d'une part, et d'autre part, elle est plutôt à moyen et à long terme. Donc on ne parle pas, évidemment, des dégâts humains qui ne sont pas de même nature entre faire la paix ou aller vers la victoire, ça ne se solde pas par le même nombre de morts. Donc pas grand-chose, si ce n'est rien en matière de diplomatie, alors que tous les experts disent depuis le début qu'une dite victoire contre la Russie est militairement impossible, sauf peut-être à y ajouter une boucherie énorme avec des soldats venus d'autres pays de l'Europe. Mais même dans ce cas de figure, c'est pas sûr que la victoire serait au bout du tunnel. Alors il faut revenir aussi sur ce qui s'est passé au Parlement ces jours-ci, puisque la manipulation a fait grand train. On nous a donné des résultats incomplets ou inexacts des votes par rapport à l'accord de sécurité franco-ukrainien. Et donc je me dois de rétablir en quelque sorte, de dire la vérité dans le domaine. Ceux qui ont voté contre, ce sont donc la France Insoumise et le Parti communiste français, hein, qu'on oublie tout le temps dans les commentaires. Le Rassemblement national n'a pas voté contre, comme ça a été dit ici et là. Il s'est abstenu, il y a quand même une certaine différence. Et tous les autres, dont le Parti socialiste, dont les Verts, ont voté pour. Voilà pour les résultats du vote. Et pendant qu'on nous vend, en quelque sorte, une version de la nécessité d'intervenir en Ukraine par rapport à la défense du territoire principalement, et par rapport aux frontières internationales. On oublie les résolutions de l'ONU et on oublie la Palestine, où là, par contre, on nous demande d'accepter un raisonnement tout à fait inverse sur la légitimité des territoires par rapport à ce qu'on nous dit pour l'Ukraine. Donc là, il faudrait raisonner différemment pour la Palestine que pour l'Ukraine. Je voulais dire aussi un mot sur la Russie, car aujourd'hui, ceux qui sont contre la guerre sont quelquefois qualifiés de pro-russes ou quelquefois de qualifiés de pro-Poutine. Encore faudrait-il que les Russes décident de leur choix politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et en ce qui concerne Poutine, il faut le requalifier. Bon, dire que c'est un dictateur, cela semble évident, mais il faut dire aussi que c'est un libéral, un allié historique du capital et un adversaire des progressistes. Et généralement, ce sont plutôt les progressistes qui sont contre la guerre. Donc on voit que accuser tous ceux qui sont pour la paix et contre la guerre d'être pro-russe ou pro-Poutine, c'est assez détestable comme méthode. Alors, qui dirige vraiment en Russie, en Ukraine, en France, c'est aussi une bonne question à se poser, puisqu'on nous parle toujours des oligarques russes. On a l'impression qu'il y aurait des oligarques seulement en Russie. Eh bien, c'est tout à fait faux. Il y en a évidemment en Ukraine et en France. Et d'ailleurs, le dernier président ukrainien jusqu'en 2019, depuis la révolution Maïdan, à savoir Petro Porochenko, est un milliardaire ukrainien. Donc on voit tout de suite, quand je parlais de pays ultralibéral tout à l'heure, qu'il y a quelques relations. Voilà. Et puis ce qui inquiète grand nombre d'entre nous, à juste titre, c'est la menace de guerre mondiale. Alors, on peut pas spéculer sur les pourcentages de survenus, mais en tout cas, elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle et ce n'est plus de la science-fiction. D'autant plus que le lien est fait par différents commentateurs et on essaye de nous mettre ça aussi dans le crâne, de faire le lien avec la Chine, avec Taïwan. Et je rappelle quand même que Taïwan n'est pas exactement un pays limitrophe de la France. Alors derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a effectivement des objectifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec les droits de l'homme, mais qui sont plutôt toujours et encore dans le sous-sol. Et en l'occurrence, la question des terres rares, qui sont aujourd'hui très insuffisantes pour mener cette transition énergétique, hein, pour les batteries, etc. Et où se trouvent les terroirs aujourd'hui sur la planète ? Eh bien, elle se trouve principalement en Chine et en Corée du Nord. Donc une nouvelle course qui n'est plus celle du pétrole, mais celle des terres rares. Et manque de bol, elle se situe dans des pays où finalement on n'a pas nécessairement de très bonnes relations et où on ne peut pas coloniser facilement comme on l'a fait pour le pétrole. D'où ces menaces guerrières qui incluent finalement la situation de la Russie avec l'Ukraine, avec la Chine et avec Taïwan. Tout est bon hein, pour finalement arriver à conquérir ce qui serait nécessaire pour la transition énergétique. Donc le but profond est bien de repositionner finalement les zones d'influence sur la planète, d'affaiblir celle de la Russie et d'affaiblir la Chine, qui est devenue, je le rappelle, la première puissance économique sur la planète, devant les États-Unis sur le plan économique, mais pas sur le plan de l'arsenal militaire. Il y a une certaine différence de ce côté-là. Et donc là-dedans, le bonheur des Ukrainiens hein, et l'absence de recherche de paix, eh bien finalement, c'est hors sujet. Alors le bonheur des peuples, hein, c'est intéressant d'y revenir, puisque nous on raisonne comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est souvent ce qui est mis en avant pour justifier les conflits, alors que le vrai mobile est la richesse du sous-sol. On nous l'a fait le coup pour l'Irak, on nous a fait le coup pour le Qatar, on a un certain nombre de menaces sur le Venezuela, qui est un pays qui regorge énormément de ressources pétrolières, ou aussi, quand c'est pas directement le sous-sol, c'est la maîtrise des positions géostratégiques pour aller notamment en direction des pays qui ont une richesse dans le sous-sol, et j'en pense en particulier à l'Afghanistan, au Yémen, ou ce qui se trouve sur la voie, Taïwan. Alors pour l'Ukraine, on a deux mauvaises raisons, mais des raisons quand même pour les capitalistes de mener la guerre, c'est que l'Ukraine est riche finalement dans son sous-sol, et l'Ukraine est également, sur le plan géostratégique, un pays intéressant. Alors pour terminer, je voudrais rappeler ce qu'est la guerre, puisqu'on parle bien sûr et à juste raison du fait qu'elle fait couler le sang, qu'elle amène la misère, mais c'est aussi, dans toutes les guerres, la suspension de la liberté d'expression, ça c'est important de le dire, la censure, etc. C'est la suspension du droit de manifestation, il faut aussi le dire par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les grands problèmes sociaux qui restent à régler dans notre pays, qui passeraient donc à la trappe. C'est le recul important du niveau de vie de la population à travers l'effort de guerre, donc baisse généralisée du niveau de vie de la population, ça se passe toujours comme ça. C'est les attaques contre les droits du travail ou la mise en parenthèse, entre autres sur la durée du travail qui s'allonge, sur l'âge de la retraite qui recule encore, sur les congés qui sont supprimés ou réduits, etc., et d'autres aspects également du droit du travail. C'est aussi l'occasion d'éliminer les opposants de toute nature, puisqu'en temps de guerre, on en profite pour faire le ménage. Donc c'est aussi un aspect à prendre en compte, et j'ai bien dit opposants de toute nature, puisque l'occasion est trop belle de régler des comptes. Et c'est aussi un sujet nouveau, mais un sujet qui semble évident, de passer à la trappe les préoccupations sur le dérèglement climatique, qui serait plus le sujet d'actualité. Déjà, il l'est relativement peu, mais là, il ne le serait plus du tout. Voilà ce que je voulais dire sur la guerre, c'est quoi ? Et je n'ai pas parlé du stade d'une guerre nucléaire, puisque là c'est assez facile, c'est assez simple en tout cas, au stade d'une guerre nucléaire, il n'y a plus rien à écrire, ni dans ma chronique, ni ailleurs. Voilà, alors c'est pas très gai, mais ça mérite, et c'est pour ça que je l'ai fait, ça mérite aussi que chacun et chacune, là où il est, collectivement, si possible, se mobilise pour la paix, puisque les guerres n'ont jamais fait le bonheur des peuples. Voilà pour cette chronique et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cléodus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.